Matin,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, nouvelle heure ensemble et nouveau sujet d'exploration ce matin avec un livre sorti hier chez Odile Jacob sur l'intelligence artificielle et sur les chimpanzés du futur. Autrement dit, la manière dont nous nous apprêtons à cohabiter avec d'autres formes d'intelligence, on le fait déjà. Mais comment l'avenir s'engage sur le sujet, l'intelligence des robots aux processeurs, processus de plus en plus complexes. Mais comment ne pas oublier l'une de nos sources d'inspiration et d'enseignement les plus exemplaires, l'intelligence animale et en particulier celle des grands singes. Le paléo-anthropologue Pascal Pic est avec nous. Discours clair et passionné qu'il nous livre sur le sujet avec ce cri du cœur, toujours sauvons les singes et leur intelligence hors pair. On fait le tour de la question jusqu'à 11h sur Europe 1. Pour toutes vos questions à vous, vous connaissez le principe Julie.
Oui, c'est le standard qui attend vos appels. 3921, vous avez aussi les réseaux sociaux et vous utiliserez le hashtag Europe 1 pour cela.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de nos intelligences croisées ce matin. Bonjour Pascal Pic.
Bonjour Wendy Bouchard.
Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur ce sujet dans un monde qui évolue. Intelligence de l'homme, du singe, celle portée par les nouvelles technologies et la fameuse intelligence artificielle. Vous êtes fasciné, et c'est clair dans vos derniers livres, par cette intelligence du futur, par celle qui va décider, qui va lire le monde, qui va nous guider. Vous n'en souhaitez pas une au-dessus des autres en particulier. C'est bien le principe de la cohabitation harmonieuse qui vous intéresse.
Bien sûr, parce que l'évolution, d'abord, surtout pour le cerveau, puisqu'il s'agit de ça, elle est liée à une chose. C'est avant tout le cerveau social. Le cerveau des singes, des grands singes, est beaucoup plus développé que celui des autres espèces de taille comparable. Par exemple, des chiens qui sont réputés très intelligents, comme les Dobermann,
oui,
ont la même taille que des babouins. Et bien, le cerveau des babouins est deux fois plus gros. Et on s'aperçoit que les singes sont les chiens sont des animaux très sociaux, entre eux et avec nous, bien sûr. Ben alors là, chez les singes, c'est complètement autre chose. Donc, on a un cerveau beaucoup plus développé, qu'on a longtemps négligé. Et aujourd'hui, en effet, il faut sortir, comme vous l'avez esquissé dans vos propos, de cette vision hiérarchique que nous avons. L'homme a tout, il est intelligent, les animaux n'ont rien. Et d'un seul coup, ça nous met dans une situation extrêmement inconfortable, parce que vous l'entendez souvent. Ah, l'angoisse, est-ce que les robots vont être plus intelligents que nous, vont nous remplacer? Je vous rassure, ils sont déjà plus performants que nous, sachant que les robots, c'est une petite partie de l'intelligence artificielle, parce que c'est des intelligences artificielles.
Oui.
Et cet essai, c'était justement dans une perspective évolutionniste, bien sûr, c'est mon travail en tant qu'anthropologue, c'est de regarder, d'abord, comprendre les autres intelligences animales, parce que on est tous piégés par notre façon de parler, on dit l'intelligence animale, alors qu'en fait, il y en a plein, celle des chimpanzés n'est pas celle des chiens, n'est pas celle des dauphins, bien sûr. Et puis, il y a des intelligences artificielles. Et ma grande surprise, alors que j'en ai fait, moi je viens du monde de la physique théorique, donc j'ai fait l'intelligence artificielle, mais il y a fort longtemps, il y a une trentaine d'années. Mais néanmoins, j'ai toujours mes repères, bien évidemment, j'ai suivi un peu cette affaire-là. Mais j'ai quand même été surpris parce que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus d'intelligence artificielle au pluriel qu'on l'imaginait. Et surtout, des formes d'intelligence artificielle qui sont inspirées de la biologie. Et elles ont même commencé avant Alan Turing, l'article de 1950.
Donc par aujourd'hui, exemple, nous sommes exemple, en train. Citez-nous un exemple.
Alors, par exemple, c'est ce qu'on appelle les neurones artificiels. Mmh. Alors, quand on dit cela, on pense que ce sont des petites puces comme ça qui imitent les neurones naturels qui sont les nôtres. En fait, non, ce sont des fonctions mathématiques, mais qui ont été inspirées à la fois de la manière dont fonctionnent nos neurones. Alors ça, c'était 60 ans en arrière. Un neurone, ça fonctionne comment ? Ça reçoit des informations des autres neurones ou des capteurs que nous avons dans notre corps, ce qu'on appelle les dendrites. Et après ça, le neurone va s'activer, traiter l'information, la laisser passer ou pas. Et alors, il va ensuite la transmettre, si c'est le cas, aux autres neurones. Donc l'idée a été, déjà en 1943, vous vous rendez compte, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, ça a été donc d'imiter cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'approche par le bas. Donc d'emblée, dès les années 50, il y a deux grandes approches qu'on a connues, nous aussi, dans mon domaine, dans l'évolution de l'homme, qui considéraient, eh bien, imitons l'intelligence humaine pour qu'on croie ce qu'elle est. Mmh. Donc c'était le projet initial avec, esquissé par Alan Turing, mais ensuite les premières conférences sur l'intelligence artificielle au milieu des années 50. Donc imiter le langage, imiter les mathématiques, imiter les démarches logico-mathématiques, tout ce qu'on apprend à l'école, ce qui est favorisé dans notre enseignement d'ailleurs, notamment en France. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui d'emblée se sont dit, partons de systèmes simples et voyons comment ils sont capables de créer de l'intelligence. Donc c'est une approche plutôt bottom-up, pour employer un terme très français, pardonnez-moi. Et cette approche, en fait, a été un petit peu occultée parce que c'était très compliqué à mettre en place d'un point de vue technique et mathématique. Et c'est celle-ci qui éclate aujourd'hui avec ce qu'on appelle les machines auto-apprenantes ou autres. Et l'exemple typique, c'est quoi ? C'est la fameuse machine AlphaGo qui a battu le champion du monde du jeu de Go. Et ça, c'est en train d'éclater aujourd'hui.
Est-ce que les intelligences progressent ? Les intelligences humaines et animales, alors que l'intelligence artificielle, oui, par définition, oui, peut progresser.
Alors, les intelligences animales évoluent par elles-mêmes, bien évidemment, tant qu'on n'interfère pas avec les espèces, comme vous le savez, de manière souvent dramatique. Mais c'est une terre inconnue. En fait, vous savez, vous me connaissez assez bien depuis pas mal d'années maintenant sur les comportements des grands singes, oui, l'évolution comportementale, mais ça reste encore un continent assez inconnu. Donc, lorsqu'on évoque des approches bio-inspirées, donc inspirées de la nature, il est très clair qu'on ne peut pas le faire si on ignore ou si on comprend mal les intelligences animales. Donc déjà, elles continuent à évoluer. Et c'est un domaine qui aujourd'hui, on sait très bien pour les grands singes, sur l'empathie, la sympathie, la capacité à faire de la politique, etc. Ouais. Tout ça, c'est les dernières décennies. Maintenant, les intelligences artificielles évoluent elles aussi. Et pour la petite anecdote, vous savez que notre très bon député et très élégant mathématicien, Cédric Villani, qui a été le directeur du rapport qui a été remis au président de la République, au Collège de France d'ailleurs, je lui dis, tiens, parce que j'ai vu il y a deux soirs, il y a une partie nature artificielle qui n'est pas dans ton rapport. Il me dit, oui, c'est vrai, c'est celle qui a inspiré justement des théories de l'évolution. Et c'est pour cette raison, votre question, j'ai pris un peu de temps à répondre, c'est qu'en connaissant les autres espèces et les théories de l'évolution, on va contribuer à ce que les intelligences artificielles, qui évoluent déjà sur les problématiques des ingénieurs ou autres, des chercheurs, et ça c'est extraordinaire, mais vont connaître des évolutions qui est en train de créer un autre espace que j'appelle l'espace digital darwinien. C'est-à-dire qu'on a une autre évolution artificielle qui aujourd'hui évolue même par elle-même avec des machines auto-apprenantes et qui vont interférer avec nous. Donc c'est ça le monde qui arrive, un monde avec des intelligences humaines qui vont stimuler par la connaissance des intelligences animales, notamment des grands singes, et des intelligences artificielles.
Voilà, les intelligences en question aujourd'hui avec ce préambule de Pascal Pic, intelligence artificielle et chimpanzés du futur. On va lister dans la grande sensibilité les différentes intelligences des grands singes. Vous allez voir que la liste est longue justement et c'est absolument incroyable et passionnant. À tout de suite avec Julie et notre expert paléo-anthropologue sur Europe 1 jusqu'à 11h. Pascal Pic.
Nous sommes en présence de Pascal Pic, paléo-anthropologue, spécialiste des grands singes. On peut parler avec lui de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence et pourquoi nous caractérise-t-elle ?
Eh oui, mais cette grande question quand même, comment on définit l'intelligence, Pascal Pic ? Parce qu'il y a des intelligences, vous le disiez en préambule, alors on pourrait faire plusieurs thèses sur le sujet, mais c'est bien le problème.
Mais il y en a des thèses, et d'ailleurs on va dans le débat, notamment en France, il y a beaucoup de personnes, de penseurs, près de la philosophie, qui nous disent non, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle, c'est un oxymore, ça n'a strictement aucun sens.
Oui.
Par contre, si on va dans le monde anglo-saxon, et on le sait bien, CIA, Central Intelligence Agency, où l'intelligence, c'est chercher des informations et les analyser. Mm-hmm. À partir de là,
ça
c'est pas un
oxymore. Ça peut être robotique. Voilà.
Voilà. Et donc, du coup, on est confronté à des traditions culturelles très fortes, où chez nous, en France, encore, persiste la tradition cartésienne, si je peux me permettre, avec donc le cerveau qui nous est donné par le créateur, il faut dire les mots comme ils sont, et qui va traiter les problèmes. Là, évidemment, on comprend bien que l'intelligence artificielle, sous cet angle-là, ça ne peut pas fonctionner, la définition devient aberrante. Par contre, si on est sur la résolution de problèmes, donc la définition la plus basique, c'est quoi l'intelligence ? C'est comment traiter des données, percevoir des informations du monde extérieur et les résoudre. À partir de là, donc, on est chez les hommes, les animaux et les machines.
Oui.
Maintenant, les études montrent très bien, vous savez qu'on a beaucoup parlé à une époque du cerveau gauche qui était plus logico-mathématique, qui était plus logique, et du cerveau droit qui était plus empathique, émotionnel, créatif, etc. Alors, on est resté sur l'idée qu'il y avait des spécialisations dans le cerveau. Il est vrai, mais à son partiel. Et à partir de là, on peut aller chercher s'il y a des formes d'intelligence chez les autres espèces et chez les machines. Par exemple, l'intelligence mathématique ou logico-mathématique, l'intelligence classificatoire.
Bah, on a tous des formes d'intelligence, c'est très subjectif quand même.
Exactement, mais elles sont toutes corrélées en fait, elles ne sont pas indépendantes, ce n'est pas des modules indépendants comme on l'avait dit.
D'accord.
Et à partir du moment où on sort d'une vision un peu de la métaphysique, de la grande intelligence comme l'âme, vous voyez ce que je veux dire, ou la conscience. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, avec les scientifiques, avec des machins pareils ? C'est beaucoup trop gros, ce n'est pas précis. Et donc, il y a des chercheurs, comme M. Gardner, qui a dit, voilà, regardons ce que font nos intelligences. Où l'intelligence a fait des mathématiques, a fait du traitement de la musique, a fait du traitement du langage, a fait du traitement logique, classificatoire, naturaliste, celle qui nous permet, quand nous nous déplaçons tous les jours, de capter les informations et de nous orienter. Donc, ces différentes intelligences, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. On s'aperçoit que quand les personnes sont intelligentes, par exemple, pour le bricolage, vous savez, la dynastie des Habsbourg, c'est amusant, ça me revient.
Oui, il y a intelligence manuelle, artisanale.
Les princes apprenaient avec des princes, mais oui. Ils avaient toujours à apprendre un travail manuel, ce qui est un problème en France parce qu'on spécialise trop tôt. Donc, si vous êtes intelligent dans un domaine, vous avez des chances d'être assez intelligent dans les autres domaines. Tout ça est connecté. Donc, on le sait, il ne faut pas les traiter de manière indépendante, mais ça nous permet d'arriver sur des questionnements précis, des observations précises. Et aujourd'hui, comme vous le savez, ça s'est même élargi. Parce que quand je dis que l'intelligence est résolution de problèmes, ça met complètement de côté quelque chose de très important, la créativité. Comment notre cerveau est capable d'inventer des choses, des concepts par lui-même, sans sollicitation du monde extérieur. Alors ça, c'est ce qu'on appellera plus tard l'intelligence forte. Quand peut-être arrivera l'intelligence émotionnelle ou autre, on en reparlera, il est possible qu'elle émerge assez rapidement.
Mais ce que vous dites en tout cas, c'est qu'on ne peut pas classifier vraiment les intelligences et qu'elles peuvent se rendre service mutuellement.
Exactement.
Une intelligence artificielle peut nous nourrir, l'intelligence animale,
voilà,
on peut
exactement.
La... Voilà. C'est interactif.
Voilà, c'est ce que nous montrent les sciences cognitives. Évidemment, nous savons que nous faisons là du langage, nous sommes à la radio, que tout ceci est plus localisé sur le cerveau gauche, qu'on appelle l'aire de Broca.
Oui.
Donc c'était il y a 150 ans, on a commencé à découvrir qu'il y avait des aires plus ou moins spécialisées. Il y a les aires visuelles, auditives, on est bien d'accord. Mais cependant, si, et on sait maintenant, il vous arrive un accident, quel qu'il soit, qui impacte une partie de votre cerveau, avec un peu de temps, et selon évidemment l'ampleur des dommages, le cerveau va compenser même entre les deux parties. Donc il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, qui est une forme d'intelligence que nous n'avons pas encore dans les machines, qui viendra peut-être, mais qui est chez les singes et les grands singes, proches de nous, et peut-être d'autres espèces. Donc, vous allez sur Wikipédia, pardon, je ne fais pas de publicité, mais tout le monde y va, vous cherchez une définition d'intelligence, vous apercevez que personne n'est d'accord, mais que globalement, ça recouvre tout ce qu'on vient de dire.
Eh bien justement, on va parler des grands singes. Je ne cesse de nourrir votre intérêt, chers amis auditeurs, sur les intelligences de la vie, intelligence au pluriel de ces grands singes qui nous enseignent beaucoup et qui peut contribuer justement à nous apprendre d'autres formes d'intelligence. On en parle avec celui qui les observe si bien, paléoanthropologue, qui publie l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, chez Odile Jacob, notre invité Pascal Pic, avec Julie et vos questions, vos témoignages au Standard d'Europe 1.
Le 39-21.
Europe 1.
Retour au sujet du jour, jusqu'à 11h, que nous enseigne l'intelligence des grands singes. Les réponses du paléoanthropologue Pascal Pic, qui milite pour une meilleure connaissance de ces animaux.
Et
Wendy.
Comment faire cohabiter, interagir, Julie, nos différentes intelligences, intelligence artificielle dont on parle de plus en plus et on le met au pluriel, notre intelligence humaine dans son évolution et l'intelligence des grands singes. Alors, j'ouvre votre livre, page 81, pour être tout à fait exact, Pascal Pic, et alors vous faites le listing des intelligences des singes, c'est absolument fabuleux. Intelligence linguistique ou communication symbolique, les chimpanzés qui apprennent et qui emploient le langage gestuel des sourds et des muets. Intelligence spatiale, les chimpanzés se déplacent dans les espaces arborés à trois dimensions. Intelligence interpersonnelle ou sociale, le gros cerveau des singes est avant tout un cerveau social, vous nous l'avez expliqué. Intelligence musicale ou rythmique chez les chimpanzés qui en captivité aiment la musique. Intelligence émotionnelle, l'empathie, la sympathie, la joie, le plaisir, la tristesse, les rancœurs, tout ça ils l'éprouvent. Intelligence sexuelle chez les chimpanzés, notamment chez les bonobos ou chez les chimpanzés graciles, les jeux du sexe sont très inventifs. Intelligence créatrice, les chimpanzés et les communautés de chimpanzés se distinguent par des traditions de comportement, de gestes, d'alimentation. Intelligence économique aussi. Ils savent négocier, ils savent faire du troc.
Ah ben oui, mais bien sûr. Et donc ça veut dire, je suis capable de comprendre l'autre, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Il y a des engagements. Alors c'est intéressant parce que un des textes fondateurs de l'anthropologie en France, c'est Marcel Mauss, qui est justement l'anthropologie du don. Parce que quand on fait un don, on engage l'autre à nous le restituer.
Oui.
Et les chimpanzés gardent très bien la mémoire, l'évaluation des dons que l'on peut faire. Alors il y a d'autres singes qui sont très éloignés de nous, qu'on appelle les singes capucins, qui sont des petits singes d'Amérique du Sud, qui sont hyper intelligents. Et aujourd'hui, on fait des études, des observations qui permettent de valider les théories de Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, sur justement les comportements d'intelligence, d'interaction, de deal ou autre. Et on s'aperçoit que, par exemple, l'agent économique rationnel qui est au cœur des théories néoclassique de l'économie est complètement invalidé justement par les observations chez les chimpanzés et les grands singes.
Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors par exemple, si vous mettez deux singes capucins ou deux chimpanzés, oui. On a fait chez les deux, ils sont côte à côte et on leur demande de faire une tâche assez complexe. Alors comme ils sont doués, ils trouvent les solutions par eux-mêmes ou ils exécutent celles qu'on leur demande, mais ils les adaptent. Donc ils font un job, ils sont rémunérés avec des concombres, ce qui est quand même un très bon salaire chez les singes capucins.
Oui.
Et au bout d'un moment, vous valorisez l'un des deux en lui donnant des raisins. Donc là, il est vraiment sacrément augmenté, mais il fait toujours le même autre job. Et celui qui est de l'autre côté, il va se dire, à un moment là, je fais le même job que mon copain.
Et
là,
il est mieux payé que moi.
Il est mieux payé que moi et il va se mettre en grève. Parce que nos neurones, qu'on appelle les neurones miroirs, entre autres, qui participent de l'empathie, la représentation qu'on a de soi et des autres, eh bien, ils s'aperçoivent qu'il n'est pas du tout valorisé pour son travail. Et auquel cas, donc...
Il arrête de bosser.
Mais on peut se payer. Vous voyez, en ce moment, on est en plein Brexit, comme vous savez. Mm. Voilà, les singes nous permettent de comprendre ce qui s'est passé avec le Brexit et un peu partout dans le monde maintenant.
Ah bon ?
C'est-à-dire, ben oui, c'est ce qu'on appelle la théorie du jeu de l'ultimatum. Mm. C'est-à-dire, le jeu de l'ultimatum, alors je joue avec vous, Wendy Bouchard, on va être tiré au sort, vous ou moi, et celui qui est tiré au sort à la main. Donc ça va être moi, je triche pas. Mm. Je vais avoir une somme d'argent, je veux dire une centaine d'euros, et je vous propose un partage.
D'accord.
Donc, j'ai la main, et si vous acceptez le partage, on part avec. Mais si vous refusez, nous partons tous les deux avec rien.
Okay.
Donc j'ai une centaine d'euros, vous êtes très sympathique, tout le monde le sait, on vous connaît bien, mais je me dis après tout, je ne suis pas sûr de revoir Wendy Bouchard avant mon prochain bouquin, donc j'en garde 80 euros, je vous en propose 20. Et là, vous dites, ce paléanthropologue de Pascal Pic, il se croit sympa, mais quand même, il garde 80 euros, il m'en propose que 20, il n'a quand même pas une bonne estime que moi. Et là, on va passer d'un jeu, je crois gagner beaucoup et vous allez gagner peu, à un jeu où vous dites, ok, moi je perds potentiellement 20 euros, et bien ce gars-là, il est quand même trop égoïste, je dis non. Et moi, je vais perdre 80 et vous, quasiment peu. Donc on va basculer d'un jeu, plutôt je gagne beaucoup, vous gagnez peu, à un jeu, tu vas perdre beaucoup et moi je perds peu. Et c'est ce qu'on est en train de connaître dans le monde et on s'aperçoit que c'est universel. À partir du moment où les gens, et on peut regarder une des problématiques des gilets jaunes à travers ça, à partir du moment où les gens se sentent dévalorisés, plus considérés, ils basculent d'un jeu, je gagne peu, un jeu, tu vas perdre beaucoup. Voilà ce que nous apprennent les intelligences des grands singes ou autres. Et il y a d'autres jeux, alors par exemple, différence entre intelligence, entre nous, les grands singes et les hommes, et d'autre côté, les machines. Je vous donne un autre exemple, au niveau du comportement. C'est le jeu des deux pommes. Vous donnez à la machine les différents jeux. Au bout du jeu, vous aurez toujours deux pommes. Donc la machine vous dira, tous les chemins qui mènent à ce résultat, c'est deux pommes. Sauf que si je présente le jeu sous forme de gain. Donc, je vais avoir un jeton. Donc, il y a vous dans le studio, Wendy, et Julie qui est avec nous. Moi, je suis le singe. Donc, vous, Wendy, vous venez, j'ai un jeton, parce qu'ils apprennent très vite à négocier, justement. Mmh. C'est l'intelligence commerciale dont nous parlons.
Oui.
Donc, Je vous donne un jeton à vous, Wendy, et systématiquement, vous me donnez deux pommes, réguliers. Je vais vers Julie, et là, un coup sur deux, Julie me donne trois pommes. Je dis, elle est sympa. Et le coup d'après, elle me donne qu'une pomme. Donc, en moyenne, j'aurai deux pommes. Et je vais préférer assurer mes gains, donc avoir des relations avec vous, Wendy. Maintenant, on va passer sur la forme du jeu perdant. Donc, je donne un jeton, et vous, Wendy, toujours régulière, on passe de trois pommes à deux pommes. Donc, j'en perds une systématiquement. Mais avec Julie, premier coup, elle me donne trois pommes, je ne perds rien, je suis content. Deuxième coup, elle donne une pomme. Mais là, on va passer sur le registre des pertes. Et je vais préférer avoir un deal avec Julie, parce que je peux faire un pari sur les pertes, mais je ne vais pas faire un pari sur les gains. Eh bien, les machines, elles, qui sont assez intelligentes pour ce genre de choses, nous diront, tous les chemins mènent à deux pommes, c'est exactement la même chose. Par contre, en tant qu'humain et grand singe,
on va
changer de partenaire dans ce genre de choses. Voilà,
comment on peut se nourrir et comment des théories aussi économiques, commerciales, peuvent être fondées aussi sur l'observation de la nature et l'observation des grands singes que vous connaissez bien, Pascal Pic. On va revenir sur ces intelligences animales et humaines, leur interaction justement, vos enseignements, que nous enseignent cette intelligence des grands singes dans le détail, vous qui militez pour leur survie et leur défense. A tout de suite sur Europe 1 avec Julie.
L'homme, les grands singes et les robots, comment faire cohabiter leurs intelligences? On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard et son invité Pascal Pic, qui est paléo-anthropologue, spécialiste des grands singes, maître de conférences au Collège de France et auteur du livre « L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur » qui est paru hier chez Odile Jacob.
Comment nos intelligences s'inspirent l'une de l'autre, finalement, progression ou régression, Pascal Pic, est-ce que vous diriez que d'abord, dans une société qui avance dans la modernité, l'homme gagne ou perd en intelligence, de manière générale ?
La vraie difficulté, ça va être si nous nous abandonnons à trop de confort. Donc ces machines, de plus en plus, font des choses extraordinaires, comme
ces
vous savez.
Ces auxiliaires de vie robotiques.
On a les assistants personnels qui rentrent dans les maisons, comme vous savez maintenant.
Oui.
On ne va pas citer de marque, mais en tout cas, c'est déjà là.
On a parlé Google Home,
Alexia, etc. Oui. Donc il y a tout ça. Donc ça nous amène beaucoup de choses. Alors il y a une partie du livre où justement j'explique que nous avons coévolué avec les machines, mais en perdant un peu la main. C'est-à-dire la main, et on voit bien que beaucoup de termes qui sont liés à nos actions quotidiennes et même à la gestion de nos affaires, est basé sur l'étymologie de la main. Management, manipuler, manœuvrer, tout ça, ça vient de Manus.
C'est vrai.
Et regardez, en quelques années, comment nous sommes passés d'abord au bout des doigts, nos claviers, ensuite un seul doigt en glissant sur les claviers, et aujourd'hui nous arrivons donc à la capacité de commander que par la voix. Et bientôt, et les machines savent déjà le faire, avec les capteurs, ça va être simplement en étant capable de voir ce que nous avons au fond de l'œil.
C'est-à-dire qu'on désapprend tout ce qu'on nous a appris, les rudiments de l'intelligence manuelle, etc.
Alors, être intelligent, on l'a dit plusieurs fois, c'est interagir avec d'autres intelligences. Mais le vrai problème, c'est que si nous abandonnons dans la facilité du confort, ce que j'appelle justement le syndrome de la planète des singes, et ça, c'est le vrai danger. On regarde la science-fiction, à chaque fois on a l'impression que c'est les robots, Terminator ou Frankenstein, ça c'est le même mythe, les machines vont nous supplanter, nous remplacer, c'est une vieille histoire. Ça, c'est pas ça qui va se passer, les machines ne vont pas se révolter comme dans Terminator. Le vrai danger, c'est que si nous les humains, nous cessons de stimuler nos intelligences et nos relations avec les autres intelligences. Et ça donne de la planète des singes, c'est ça. C'est pas du tout dans les films. Hein. Dans tous les films qui ont été faits depuis 1968, il n'y a pas du tout la vraie explication qui est dans le roman. En fait, dans le roman, l'auteur raconte qu'à un moment donné, vous aviez une émission auparavant avec, sur la psychiatrie et les sciences psychologiques. Les singes sont des scientifiques très avertis. Alors, le livre est sorti dans les années 60. Et vous allez voir la prémonition quand même de Pierre Boulle, l'auteur. Et là, notre héros humain rentre dans le laboratoire des neuroscientifiques chimpanzés et ils ont attrapé une femme. Et sur la planète des singes, les hommes et les femmes ne parlent pas. Donc ils extraient sa mémoire profonde, comme la mémoire profonde d'un disque dur. Et là, elle dit de manière inconsciente, tout allait bien sur la planète Soror. Mais au fil du temps, nous avions des machines qui produisaient les biens nécessaires et des grands singes que nous avions domestiqués qui veillaient à nos services de tous les jours. Mais au fil du temps, nous avons cessé d'être actifs intellectuellement et physiquement. Et pendant ce temps, ils nous observaient. Donc le vrai danger des machines, c'est pas que si elles nous stimulent, ça pose pas de problème, mais c'est que si nous devenons paresseux et ça substitue à ce qui a fait notre intelligence au cours de l'évolution humaine, c'est-à-dire l'objet, les outils, les techniques, les interactions sociales, si nous perdons là-dessus, eh bien, nous nous mettrons nous-mêmes dans ce syndrome de la planète des singes, mais c'est pas les machines qui prendront le pouvoir, c'est nous qui nous mettrons dans une servitude volontaire.
Faire servitude volontaire, voilà, très 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 bon terme. Alors que les animaux, en particulier les grands singes que vous étudiez, que vous connaissez mieux que les autres, continueront eux justement à avoir leur capacité de connaissance du monde, d'appréhension du monde, probablement progresser.
Ben, on l'espère, hormis les problèmes d'extinction, comme vous le savez, des drames écologiques, mais néanmoins, ils continuent à avancer. Par exemple, du côté du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, à cause de la déforestation, les chimpanzés, qui sont parmi les plus intelligents d'un point de vue social, technique et autres...
On avait fait une émission incroyable avec Julie et on apprenait que les chimpanzés sont adeptes de l'automédication et qu'ils savent exactement choisir le cocktail de plantes pour se soigner.
Mais ils sont en train d'engager une évolution qui est tout à fait analogue à celle des premiers hommes il y a 2 millions d'années en s'installant dans des milieux plus ouverts. Donc vous voyez toutes ces potentialités qui sont là, que nous découvrons à peine et qui vont être nécessaires pour bien sûr comprendre, c'est l'objet du livre, les autres intelligences, donc dites artificielles.
Alors que l'humanité s'est emmurée dans une certaine arrogance. Nous n'avons pas l'apanage de toutes les intelligences et au contraire, nous pouvons décréter que notre intelligence s'aplatit devant les intelligences artificielles. On fait le tour de cette question encore quelques instants avec vous, Pascal Pic, et avec votre lecture du sujet pour une anthropologie des intelligences. Voilà, le pluriel est de mise. À tout de suite avec Julie.
L'humanité peut-elle être dépassée par une autre forme d'intelligence? Wendy Bouchard et son invité, Pascal Pic.
C'est toute la dure question pour ne pas être dans une servitude volontaire, pour reprendre votre terme, vis-à-vis de ces technologies nouvelles et cette forme d'intelligence artificielle. En fait, le parti pris positif dans cette histoire serait de dire, avec tous ces assistants personnels, cette nouvelle technologie, on désencombre votre cerveau d'un certain nombre de choses, de tâches ingrates ou accessoires, pour vous donner le temps de lire, de travailler justement la plasticité du cerveau différemment sur des choses plus nobles. Mais ça ne marche pas vraiment comme ça, le cerveau.
Ça ne marche pas vraiment comme ça, parce qu'on sait avec les sciences cognitives qu'effectivement toutes les parties du cerveau sont connectées et que, comme on le disait tout à l'heure, quand vous avez une intelligence avérée, poussée dans un domaine, ça entraîne les autres à des degrés divers. Donc de croire que les machines faisant des choses pour nous, et bien d'un seul coup, on aurait une partie du cerveau qui serait disponible pour faire de nouvelles tâches.
Or,
ça ne marche pas. Oui. Bon, j'ai un certain âge, j'ai tout juste passé la soixantaine, et mes parents étaient... agriculteurs et ouvriers. Avec le même cerveau, je suis passé du néolithique au transhumanisme. Donc voilà. Donc une des grandes différences entre le cerveau humain et des grands singes et des autres espèces, c'est que ce sont des machines qui sont faites pour s'adapter à des situations nouvelles. Alors que les intelligences artificielles partent, pour l'instant, de problèmes bien spécifiques. Donc si on reste sur l'intelligence artificielle, on peut avoir l'idée qu'effectivement, ben, si on a une intelligence artificielle qui fait des mathématiques, des analyses, de la prospective, parce que depuis 2015, les analyses de données sont meilleures, notamment en médecine, pour faire des diagnostics et des prédictions. Ça, c'est très clair.
Oui, donc ça, c'est très utile et c'est au service de...
Exactement. Donc maintenant, est-ce que ça supprime le métier, par exemple, de radiologue? Ça l'a beaucoup impacté, mais ils vont commencer à travailler différemment. Donc, il faut entamer, non pas cette arrivée des intelligences artificielles dans l'idée qu'elles vont se substituer à nous, mais dans l'idée qu'elles vont nous permettre de développer d'autres formes d'intelligence collaborative avec elles, qu'on appelle les cobots, ces robots collaboratifs.
Oui, mais est-ce qu'on ne crée pas plus de contraintes, en fait?
L'intelligence, vous savez, comme disait Sartre, l'enfer, c'est les autres. Hein. Donc, on a un cerveau social et l'intelligence, c'est résoudre donc des contraintes au niveau social, au niveau de nos adaptations personnelles, au niveau professionnel et autres. Donc, ça sert à ça, l'intelligence.
Mais
donc,
avant
de changer l'environnement des contraintes, c'est sûr.
Quand vous disiez que le métier de radiologue, par exemple, un certain nombre de métiers pourraient changer, changer pourquoi? Par principe, parce que simplement on est obligé de suivre la science, ou changer pour être plus performant?
Parce qu'elles font des choses mieux que nous. Donc, vous avez, mais pas tout, comme disait Julie tout à l'heure. Est-ce que, si on parle au singulier, l'intelligence artificielle au singulier va remplacer l'intelligence humaine au singulier? Ça ne fonctionne pas comme ça. Elles font déjà des choses mieux que nous. Mais par exemple, cette capacité qu'ont les machines d'analyser des données massives. Alors, par exemple, revenons sur la médecine, vous savez qu'on a nos gènes. On a aussi des mécanismes au-dessus des gènes, qu'on appelle l'épigénétique, qui se développent très fort. Et on sait depuis maintenant 3-4 ans que l'ensemble du cerveau est connecté à l'ensemble du corps et que nous avons un microbiote, c'est-à-dire tous ces micro-organismes qui sont dans notre corps et sur notre corps.
Oui.
Donc ça, ce sont des quantités de données absolument astronomiques. Alors, on peut le traiter nous-mêmes, c'est assez facile dans les principes, c'est des statistiques de base, sauf que ça nous prendrait 30 ans. Et les machines, elles, le font extrêmement vite et nous amènent à faire des découvertes, notamment sur l'évolution des systèmes complexes, c'est vraiment le terme, en écologie, en médecine. Par exemple, les immunothérapies aujourd'hui avancent très très vite grâce justement à l'intelligence artificielle. Donc, elle ne se substitue pas aux compétences des médecins, mais elle permet d'élargir leur champ de compétences tout en prenant certaines. Alors là, en l'occurrence, que vous disiez, ça permet de dégager pour une partie du monde médical, des médecins, certaines compétences que les machines font mieux pour en développer d'autres. Je suis d'accord. Mais il n'empêche que tout le cerveau va continuer à fonctionner. Il ne va pas y avoir de substitution avec les machines.
Et comment
il
vous
nous amène à développer différemment.
Et comment vous analysez, Pascal Pic, qu'il a été plus facile quasiment pour l'homme d'accepter cette nouvelle part d'intelligence artificielle de la part des machines que d'accepter l'intelligence animale?
Très bonne question, élève Bouchard. Parce qu'effectivement, ça s'est lié à nos cultures. Ouais. Et là, il y a un aspect anthropologique. Hein, parce que dans ce livre, la première partie explique les origines des intelligences, leur évolution avec l'homme. La deuxième partie évoque les évolutions des intelligences animales. Et la troisième partie, elle évoque comment nous allons coévoluer ensemble. Et c'est là que nos cultures sont importantes. Les Japonais, nos amis japonais, ont une culture animiste. Ça veut dire que pour eux, avoir une relation avec un animal, c'est comme avoir une relation avec un humain. Ou, pareillement, avec les machines. La manière dont les cultures regardent les machines et leur intelligence, et regardent les animaux et leur intelligence, c'est exactement la même. Or, en France, c'est tout à fait différent. Nous sommes cartésiens, dualistes. On considère que l'intelligence, le raisonnement, l'âme, ça nous vient d'une entité, forcément c'est Dieu. Par contre, les machines, ce sont des instincts, ce sont des rouages, c'est des machines, l'animal-machine de Descartes. Ce qui fait que, regardez les conséquences, en France, nous avons une très très belle entreprise qui s'appelait Adèle Baran, qui a créé ces petits robots, vous connaissez, Roméo, Pepper et Nao, qui n'a pas trouvé son marché en France, qui a été racheté par les Japonais. Et les cultures de l'Asie de l'Est, comme elles sont très animistes, pour elles, avoir des relations, discuter, échanger avec un animal, une machine, c'est exactement comme avoir des relations avec les humains, alors que nous, en France, c'est exactement l'inverse. Donc, le monde qui vient avec les intelligences artificielles, plutôt que de croire que ça va effacer nos différences culturelles, en définitive, sont en train de les exacerber. Ce qui amène une autre question qui n'était pas le sujet aujourd'hui, mais comme vous savez qu'on parle de biais, comment l'intelligence artificielle est capable de reproduire et d'amplifier les discriminations sexuelles, ethniques, culturelles ou handicap ou autres, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle ne résout pas ces questions-là. Elle traite ces données et que plus que jamais, il ne faut pas croire que ces machines vont se substituer à nos travers culturels ou des fois à nos travers pas très sympathiques dans les rapports aux autres. C'est qu'au contraire, elles ne font que reproduire les schémas et de les amplifier. Donc plus jamais, et c'est l'essence de CIF, on a besoin de l'anthropologie et de l'évolution pour comprendre le monde qui vient.
Pascal Pic, et voilà, les théories de l'évolution pour mieux comprendre comment justement on évolue. Pascal Pic, l'intelligence artificielle, les chimpanzés du futur. Encore quelques secondes ensemble, on va parler de la règle d'or de l'intelligence. Ça vous laissera matière à méditer toute la journée. On vous retrouve, Julie. N'hésitez pas, si vous avez des questionnements, le standard vous est ouvert.
Le 39-21, tout de suite avec Wendy Bouchard.
Europe 1.
On retrouve Wendy Bouchard et son invité pour les dernières minutes de l'émission. Pascal Pic est avec nous, paléo-anthropologue, spécialiste des grands singes. Dans son dernier livre, il nous explique comment apprendre à vivre avec les intelligences de demain, notamment l'intelligence artificielle.
Et les intelligences artificielles, l'intelligence des grands singes également, avec une règle d'or que vous précisez dans ce livre. Pascal Pic, la règle d'or de l'intelligence, c'est apprendre à apprendre. Alors ça, c'est bon. Et vous pensez que ça vaut pour tous, homme, animal, machine ?
C'est essentiel pour l'adaptation d'espèces aussi complexes que les nôtres. Et la règle d'or, donc, c'est apprendre à apprendre. Et c'est aussi la règle d'or, très importante, que nous ne sommes pas les seuls intelligents. Et être intelligent, c'est reconnaître les intelligences des autres, que ce soit les grands singes, les animaux ou les machines.
On n'arrête pas le progrès, c'est ce que dit l'adage. Le progrès sur l'intelligence, comment se matérialise-t-il aujourd'hui, de manière la plus claire possible pour nos auditeurs?
Alors, le problème, c'est que ce n'est pas qu'on arrête le progrès, on n'arrête pas les technologies. Ça, c'est important, c'est la loi de Murphy. Par contre, c'est à nous d'en faire un progrès, c'est-à-dire d'une société des intelligences pour demain, et non pas une société dans laquelle on s'abandonne, comme on l'a dit tout à l'heure.
Oui.
Donc, c'est à nous de construire ce projet, donc c'est l'idée de ce livre. Mais regardez ce qui se passe, par exemple, sur l'art. On a considéré que c'était que l'apanage des humains. Eh bien, on sait qu'il y a des grands singes comme Congo. C'était une chimpanzée qui avait été éduquée par Desmond Morris il y a 50 ans, avait créé des tableaux et de l'art. Et aujourd'hui, on a aussi de la créativité avec les machines. Il y a une exposition au Grand Palais dans cette affaire-là. Donc, vous voyez, le monde dans lequel on arrive est absolument extraordinaire, puisqu'on a beaucoup trop sous-estimé les autres capacités de création, d'intelligence, d'interaction avec nous. Donc, ce qui veut dire être intelligent, ce n'est pas commander aux animaux et aux machines. Intelligence, c'est comprendre comment nous allons coévoluer dans une intelligence, une nouvelle écologie des intelligences. Mais c'est ça qui est en train de venir.
Comment vous faites le lien entre l'intelligence des robots et l'intelligence animale? Et que devient l'animal dans un monde, dans une vision du monde portée par l'intelligence artificielle?
Vous savez, la façon dont nous, les humains, nous pensons par rapport au monde, il y a les animaux, les machines, avant il y avait Dieu, maintenant c'est l'homme qui est au-dessus. Et donc, ce qui est en train de se construire, c'est que moi j'attends, c'est pas la science-fiction. Que va-t-il se passer le jour où les intelligences des grands singes vont communiquer avec les intelligences des robots? Là, on va peut-être pas se marrer. Mais en attendant, c'est quelque chose qui va arriver.
Et comment?
C'est parce que par les interconnexions, sauf que personne ne peut savoir comment ça se passe. C'est pour ça que je vous parlais beaucoup d'intelligence naturaliste. Aujourd'hui, on a une évolution extrêmement rapide dans les objets connectés, qui transportent de l'information. C'est-à-dire tous nos objets connectés que nous avons dans le poche, mais aussi les machines, les instances gouvernementales, les ordinateurs. Donc on a une nouvelle écologie qu'on appelle évidemment l'espace digital darwinien, je l'évoquais, qui fait en sorte que ceci va évoluer très vite avec des concepts complètement évolutionnaires, c'est-à-dire qui viennent des théories de, post-darwiniennes, dont on connaît les mécanismes, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Et ça va être pareil pour les animaux. Donc l'idée de ce livre, c'est de se dire, regardez un petit peu comment les intelligences des animaux, nous les avons négligées et comment elles peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur eux et bien sûr sur nous. Deuxièmement, regardez comment ça apporte énormément de choses pour développer des formes d'intelligence artificielle qu'on appelle la nouvelle intelligence artificielle. Et par exemple, les robots. Vous savez que notre intelligence, elle est liée, contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps, au fait de bien manger, mais de se déplacer, d'avoir des contacts avec les autres. Eh bien, aujourd'hui, un des grands enjeux de l'intelligence artificielle, qu'on appelle complète celle-là, c'est comment des robots avec différentes formes d'intelligence artificielle, vont être capables d'apprendre eux-mêmes comment on l'a fait, par les déplacements du corps, les interactions avec les autres, les toucher, la vision.
Ça, c'est pas autre. Demain la veille, Pascal.
Oh, mais si, ça va aller extrêmement vite, puisque justement, ce qu'on appelle la nouvelle intelligence artificielle, qui a commencé à pousser dans ses fondements il y a déjà une quarantaine d'années, est en train d'éclater justement avec cette nouvelle forme qui se lie au traitement de données. Alors c'est ce qu'on appelle l'ingénierie inverse. Alors ça, c'est un des grands paradoxes pour rassurer les personnes qui seraient un petit peu inquiètes de toutes ces intelligences artificielles. On appelle ça le paradoxe de Moravec. En fait, les machines font plus facilement des choses qui sont compliquées pour nous qu'elles font des choses qui sont simples pour nous. Donc, on comprend bien l'inquiétude de savoir quel fagot bat des gens au jeu de Go.
On a peur que ces machines nous dépassent en intelligence.
Voilà. Ouais. Alors, quand on sait que les gens qui jouent au jeu de Go, Kasparov, avec les jeux d'échecs, etc., sont des gens, des personnes extraordinairement intelligentes. Donc, l'idée de se dire, ah, si ces machines nous battent sur des problèmes théoriques ou complexes de ces jeux de plateau, forcément, elles sont intelligentes pour tout. Ben non, parce que, justement, faire des choses qui sont simples comme nous, comme marcher, comme se déplacer, ce qu'on appelle l'ingénierie inverse, ça va être beaucoup plus difficile pour les machines de faire des choses qui sont simples pour nous, comme marcher, se déplacer, jouer au foot, je peux dire que là, pour se souscrire à votre remarque, la machine qui battra mon petit-fils de 5 ans au foot n'est pas près d'arriver. Parce que marcher debout, c'est arrivé bien avant qu'on ait des gros cerveaux.
Oui.
Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est
Absolument.
Retrouver les chemins de l'évolution dans le sens de l'évolution et dans le sens inverse, et comment nous allons pouvoir cohabiter avec toutes ces formes d'intelligence.
Avec la nécessité de protéger aussi les animaux, et en particulier
sûr,
les grands singes, de ces recherches sur l'intelligence artificielle, avec un statut que vous revendiquez toujours pour les grands singes, Pascal, puis vous avez été co-signataire d'un sujet, d'un droit à vivre et d'un statut particulier pour les grands singes, personnes non humaines.
Alors un grand sujet d'actualité, c'est par exemple les prises de décision collectives que nous avons évidemment autour des mouvements des Gilets jaunes. Et bien aujourd'hui, grâce aux intelligences artificielles et aux capteurs, on va pouvoir suivre avec des GPS ou autres les sociétés de singes, parce que c'était très compliqué auparavant, et pouvoir faire des analyses qui vont nous permettre de comprendre beaucoup mieux l'intelligence des foules, les intelligences collectives. Là, cette fois-ci, c'est pour les humains, les grands singes et les singes, et également pour les machines. Tout ça va se mettre ensemble.
Merci Pascal Pic. Voilà cette intelligence aussi, ces intelligences nourries, des intelligences animales, humaines et robotiques pour une anthropologie des intelligences. C'est chez Odile Jacob, c'est paru hier. Pascal Pic, merci de nous en avoir donné un résumé aujourd'hui. Paléo-anthropologue, voilà.
Merci.
Pour conclure sur une note très claire. Merci Pascal Pic, à bientôt.
Merci.
Et à demain ma chère Julie.
À demain,
merci.
C'était Wendy Bouchard. Dans un instant, Anne Roumanoff.